Les voix de l'éveil. Sur Radio FM Plus 91 FM.
Chers auditeurs et auditrices de Radio FM+, bonjour et bienvenue dans les Voix de l'éveil. Aujourd'hui, nous plongeons dans le centre de l'être. Et lorsque j'évoque l'être, la nature m'apparaît, Dieu m'apparaît, la lumière m'apparaît, comme faisant partie du grand tout, sans séparation et sans limite. Nous plongeons donc droit dans l'expérience, dans ce qui nous lie les uns aux autres, la conscience, avec un grand C, mais aussi les croyances collectives. Je voudrais revenir un instant sur la notion d'expérience, de savoir, de connaissance, ou devrais-je dire plutôt tout ce qui se réfère à la mémoire, à ce qui sait, à ce qui pense, à notre ordinateur cérébral qui tire ses leçons de sa mémoire pour en créer de nouvelles, pour créer de nouvelles expériences. Mais nouvelle expérience se dit aussi nouvelle croyance. Or, le but de la réalisation de notre éveil n'est-il pas de cesser de savoir, de cesser de croire, de réaliser que nous ne sommes pas une succession d'expériences et de mémoires? Nous cherchons sans cesse la joie, le plaisir, les bonnes choses pour nous et les gens que nous aimons. Nous cherchons toujours à créer du bon pour trouver une forme de joie. Mais lorsque quelque chose de moins bon arrive, alors cette joie s'amenuise. On se laisse saisir par la colère ou la tristesse ou la frustration. Quelle que soit l'émotion qui se présente à ce moment, on se laisse tirer à plus ou moins grande échelle vers le fond, vers une basse fréquence. Nos pensées et nos paroles répétitives créent notre, entre guillemets, réalité. C'est un fait. Pensées qui émergent de croyances, de volonté, de karma, etc. René Descartes nous disait d'ailleurs « Je pense donc je suis ». Aurait-il fait fausse route? Pensez-vous réellement que nous sommes nos pensées? Combien de maîtres et de sages nous invitent à se détacher de la pensée, à discerner tout ce qui fluctue, comme les émotions, à voir l'attachement et les croyances autour du personnage que nous incarnons? Est-ce possible de ne plus réfléchir? Et si nous ne pensons plus, que se passe-t-il alors? Nous avons tous naturellement le réflexe de survie qui a plus ou moins évolué avec le temps. Je me suis amusée à constater que ce réflexe était le même en ce qui concernait le bonheur. Dans le fond, tout le monde veut la même chose, le bonheur, la paix, la joie. Et nous sommes nombreux à nous fourvoyer dans le chemin pour le trouver. Nous créons continuellement, sans interruption, des histoires que nous pensons mieux pour la personne que nous sommes aujourd'hui. Hier, j'étais par exemple dans cette entreprise, mais aujourd'hui, mes besoins ne sont plus les mêmes, ou j'ai évolué, donc je mérite mieux, donc je veux être ou je vais être dans une entreprise qui sera comme ci ou comme ça. Et puis, il en est de même pour tout ce qui compose notre vie, que ce soit professionnel, amical, sentimental, familial. Nous souhaitons toujours mieux que ce que nous avons. Lorsqu'on obtient ce qu'on désire, eh bien, l'humain, nous sommes très satisfaits de le recevoir. L'humain se satisfait de ce qu'il a, en tout cas de ce qu'il reçoit. Nous nous croyons être joyeux, mais ô combien nous nous lassons rapidement. Très vite, nous commençons à y trouver des inconvénients, nous nous plaignons, nous trouvons des choses à améliorer, et puis au bout d'un certain temps, nous nous lassons et nous voulons autre chose. Un autre job, un autre chien, un autre mari, une autre maison, etc. etc. Et ce cycle est sans fin si l'on n'en sort pas. Ou plutôt, si on ne le voit pas, si on ne voit pas le mécanisme de ce cycle. Parce que dès qu'on décèle un schéma, une habitude, une croyance, automatiquement, quelque chose se transforme en nous, sans même qu'on puisse avoir une action dessus. On n'a pas cette action de transformation. Cela se fait naturellement. On ne décide pas. Ça se fait. Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous jouiez à cache-cache. Vous êtes le chat et vous apercevez derrière l'arbre la manche rouge du manteau de votre ami qui se cache. Et spontanément, vous criez « vu !» Et naturellement, celui qui est caché sait qu'il a été vu. Alors il sort de sa cachette. C'est la même chose avec les plans de l'ego. Vous êtes le chat qui tourne son regard vers l'horizon et quand quelque chose qui vous semble, entre guillemets, juré avec le décor vous apparaît, vous criez « vu !» Et cela se démasque tout seul. La conscience se retrouve d'elle-même, se reconnaît à elle-même et libère, si j'ose dire, d'elle-même. Je reviens donc sur mon idée d'instinct de survie, car ce fonctionnement s'apparente exactement à ce que je vous explique. Nous créons des situations pour que tout soit plus agréable, pour que les choses désagréables, en tout cas qu'on qualifie de désagréables, passent mieux. Car l'humain n'aime pas avoir mal, n'aime pas être seul, et surtout il aime être satisfait. Alors, il trouve des subterfuges pour que la pilule passe mieux. Il contorsionne son être, quitte à se voiler la face, quitte à rendre le corps malade, pour éviter la souffrance. En tout cas, pour éviter de voir, pour éviter d'être face à des choses, émotions, schémas, etc., qui peuvent faire mal. Et bien qu'aujourd'hui chacun s'éveille un peu plus à sa nature divine, il n'en reste pas moins que la plupart d'entre nous restent d'une certaine façon encore dans les mécanismes du survivor. Ce n'est pas forcément conscient, mais c'est criant de vérité lorsque ce mécanisme se produit. Et je vous donne un exemple. Après avoir divorcé de mon ex-mari, ma mère me dit, pas plus tard qu'hier, « Ne t'inquiète pas, le bon arrivera bientôt. » Alors, entre guillemets, le bon, enfin sous-entendu, l'homme de ta vie, quoi, en quelque sorte. Et je souris, je ne sais plus trop ce que je lui réponds, mais au fond de moi, quelque chose a envie de crier, mais le bon quoi, en fait? D'où émerge ce besoin de voir demain, d'espérer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Et je ne dis pas ça spécialement pour ma mère, hein, car nous sommes nombreux à vouloir souhaiter le meilleur pour l'autre. Mais cette notion de « ce sera mieux avec lui, ce sera mieux demain » me laisse un goût de fausseté. Cela n'est pas assez authentique, cela me semble irréel. Il y a clairement quelque chose qui n'a pas de sens. Et ma réflexion m'a poussée à m'interroger sur le fait que la vie ne peut pas être faite que d'espoir et de rêverie. C'est clairement de l'illusion. Quand je suis revenue de ma semaine chamanique cet été, je suis rentrée avec un mental chargé, un mental qui avait enclenché le mode survivor pour que les émotions qui me traversaient à ce moment-là ne soient pas trop douloureuses et surtout pour créer une réalité qui pourrait convenir à mon ego. Malheureusement pour lui, quelque chose de plus grand avait dessiné un autre plan. Et pour une fois, au lieu de tirer sur toutes les ficelles de la bobine, pour savoir quel nœud j'allais démêler en premier, je me suis contentée de m'asseoir et de regarder la bobine s'en mêler, se démêler, s'énerver toute seule peut-être, dans tous les sens. Ce quelque chose avait choisi ce qu'on appelle la voie directe, c'est-à-dire zéro implication avec ce qui est vu. Pensée, émotion, sensation corporelle. Ou en tout cas réflexe corporel, bien que, en tout cas, je dirais, désidentification avec la sensation corporelle. Car, et on va le voir dans quelques instants, ce que l'on ressent est aussi notre guidance dans l'instant, dans maintenant, en maintenant. Et donc, cette voie directe, c'est revenir dans sa maison et regarder le jeu se faire. Maître Jean Klein, maître Éric Barret, maître Eckhart Tolle en parlent très très bien. Et pour ce faire, j'ai tiré une page au hasard du livre de l'abandon, qui s'appelle De l'abandon, de maître Éric Barret. Je vais vous citer un extrait. Penser est la peur de sentir, c'est une compensation. Je me raconte une histoire, malheureuse ou heureuse. Tout plutôt que de sentir. Dans le bonheur ou le malheur, la personne peut se savourer. Dans le senti, il y a espace. Ni bonheur, ni malheur, aucune place pour l'ego. On ne peut pas s'approprier le senti. Dès que l'on dit « je suis tranquille », c'est une pensée, plus un ressenti. La peur provoque constamment la pensée et l'agitation. Quand vous sentez, aucune agitation n'est possible. Quand on écoute un son, s'il y a ressenti, il y a tranquillité. Tous les bruits apparaissent dans la tranquillité. S'il y a agitation, je critique ces bruits. Je me dis que s'il n'y avait pas de bruit, je serais moins agité. Non, c'est parce que je suis agité que je réagis ainsi. Ces bruits ne font que stimuler mon agitation. Tranquille, les bruits ne sont que ce qu'ils sont, des bruits. Cris, radio ou battements de cœur sont les mêmes bruits. Ils ne sont dérangeants que pour des psychismes agités. Quand j'ai la chance d'être mise en question, agitée par un bruit, je reviens vers moi-même au lieu de m'occuper du bruit. Mon agitation vient de ma prétention de penser qu'il ne devrait pas y avoir de bruit, que ce serait plus juste. C'est un malheur éternel de penser que les choses pourraient ou devraient être autrement que ce qu'elles sont dans l'instant. Comme toutes les émotions, la peur est un ressenti. Quittez l'histoire. Ne vous occupez pas de ce qui vous fait peur. Ne devenez pas intelligent. Ne construisez pas une théorie philosophique profonde pour justifier votre peur. Donnez-vous au ressenti. Dans ce ressenti, il n'y a pas de peur. Il n'y a que peur. La peur est en vous. Vous n'avez plus peur. Vous sentez la peur. Et ça, c'est la manière la plus directe. On passe à une dynamique musicale avec quelqu'un qui nous parle aussi de l'ego et de tout ce qu'il nous fait croire. Il s'agit de Loïc Notet avec le morceau incontournable de l'album Selfocracy. Voici Mirror.
To them that
Loïc Notet avec Mirror, extrait de l'album Sulfocracy. Alors, si on laisse de côté les pensées, ou du moins, si on rentre dans sa maison et qu'on est présent à ce qui est, que se passe-t-il? Et c'est là où, pour ma part, la curiosité m'a poussée à, entre guillemets, changer de mode, à sortir du mode survival pour être à chaque instant et laisser ce qui est se manifester. Parce que je suis convaincue que ce que Dieu anime dans mon cœur ou dans notre cœur à chacun est juste. Pas juste pour le personnage, juste pour la vie elle-même. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la journée. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à écrire cette émission. Ce matin, en me réveillant, dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai senti le mental se mettre en route. Il reprend, comme d'habitude, les vieux dossiers et blablabla dans ma tête. Je suis présente à ce que je fais sans m'occuper de ce qui blablate justement là-haut. Je sens simplement que ça se passe. Je m'occupe un peu de ranger, de mettre de l'ordre dans ma maison. Et j'aperçois mon voisin qui s'occupe de son jardin. Et je me rappelle que je dois rempoter un sapin que j'ai en pot. Et j'avais prévu depuis un moment de le mettre dans un pot plus grand, mais là, spontanément, je sens que c'est en pleine terre que je dois le planter, et je sens exactement où. Je finis mes tâches ménagères, et me voilà partie dans le jardin, avec ma pelle. Je commence à creuser. Et au début, c'est un petit peu difficile. L'herbe est un peu haute, et honnêtement, je peine un peu à creuser. Et finalement, cette tâche qui m'a été demandée, en quelque sorte de faire, devient très vite méditative et riche en enseignements. Finalement, je sentais qu'à chaque coup de pelle, quelque chose me nourrissait. Pour ce que je vis depuis quelques mois maintenant, j'avais la sensation que cet acte dont j'ignorais complètement pourquoi je devais le faire maintenant et pourquoi spontanément je mettrais ce sapin en terre alors que j'avais dit que je le mettrais en pot, je dirais que cet acte était le symbole physique de ce qui se passait spirituellement pour moi. Et je sentais que ce travail méditatif, si je peux l'appeler ainsi, créait une espèce de connexion qui me permettait de comprendre différemment et avec beaucoup d'humilité les leçons que j'ai tirées des expériences qui se sont vécues cette dernière année. Ce trou que je creusais m'a, bien entendu, invité à être présente, mais aussi respectueuse et humble. C'est ce que j'ai senti. Chaque pierre que je rencontrais dans le sol, et Dieu sait qu'il y en avait, étaient comme des obstacles qu'on peut rencontrer sur le chemin. Je ne m'acharnais pas à vouloir absolument retirer les pierres. Je les voyais, et puis je sentais qu'il fallait que celles-ci se retirent. Et puis j'ai détourné mon attention en creusant à d'autres endroits, en faisant autrement. Et là, la pierre est sortie de terre. Et ça a été un beau symbole. Ça m'a encore montré que quand on lâche prise, les choses se font. Elles doivent se faire, bien sûr. Et puis, j'y ai vu comme un symbole d'ancrage, comme si ce sapin que j'allais mettre en terre était une partie de moi. Je m'ancre. J'ose m'asseoir dans ce que je suis. Je plante mes racines. Je sais qu'il y a eu d'autres symboles, mais très honnêtement, je les ai oubliés. Au moment où c'était en train de se passer, je me suis dit, oh, il faudrait que j'en parle. Il faudrait que je le note. Mais en fait, j'ai pas voulu le faire. Non, ça s'est fait. J'ai préféré rester sur ce qui était en train de se passer et de le vivre pleinement. Mais c'est pas important. Il a fallu, en tout cas, extirper le sapin, qui au passage était très lourd, dans son pot, qui était lui aussi très lourd, pour le mettre en terre. Et je ne sais pas comment j'ai trouvé la force pour que ça se fasse. Ou alors on m'a donné la force nécessaire pour que ça se fasse. J'ai donc bien retiré la terre de la motte. Et je craignais quelque part quand même que le trou ne soit pas assez grand. Et en fait, il était juste parfait. J'ai levé les bras au ciel en criant victoire et en enlaçant, en prenant le sapin dans les bras. Je pense qu'à ce moment-là, mon voisin a dû me croire folle, mais c'est pas très grave non plus. Et j'ai fini le travail de rempotage. Il y a eu un très grand symbole, pour moi en tout cas, en faisant ça. Je n'ai fait que creuser un trou pour planter un sapin. Mais j'y ai vécu un acte de présence, d'humilité et un enseignement sans comparable. Était-ce la force de maman terre qui m'accompagnait, le souffle du vent qui m'encourageait, ou la ferveur de Dieu qui m'animait? Sûrement un tout. Les réponses, honnêtement, n'ont pas beaucoup d'importance. Et c'est là que régit la magie de l'univers. Tout se fait sans que notre petit esprit n'en comprenne le moindre sens. Et c'est là où la vie devient magique. Et c'est souvent ce qui nous tient d'ailleurs à une basse fréquence. C'est ce besoin de savoir, de comprendre. Indicible vertu de l'ego qui cherche sans fin une réponse à ce qui n'en a pas. L'univers n'a pas de réponse. Seul le silence demeure. Et enfin, le plus beau cadeau, et je crois que c'est ce qui a couronné cette méditation active. Le plus beau cadeau fut de découvrir un oiseau qui est venu se poser sur une branche de ce sapin. Et à cet instant, j'ai senti et compris que la vie s'appuie de tout son sens lorsque les actes sont posés sans questionnement, sans raison apparente, sans filtre égotique. Lorsque la vie agit en toute pureté, tout prend sens dans son juste équilibre. Et c'est ça, vivre maintenant. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.
Les voix de l'éveil. Sur Radio FM+, 91 FM.